Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Mario Beaulieu, député du Bloc québécois à Ottawa, est avec nous. On lui demande de commenter le départ de son adversaire libéral, du moins au comité sur les langues officielles, Marc Garneau. Et il tente de nous expliquer où en est justement l'étude devant ce même comité de la loi C-13, le projet de loi qui cherche à refaire la loi sur les langues officielles. Mais d'abord, on a de la grande visite en studio.
Là-haut sur la colline. Embarquez avec Antoine Robitaille dans les coulisses de la démocratie.
C'est ma petite cousine, Paul Robitaille. Bonjour.
Salut, Antoine.
Ancienne députée de Bourassa-Sauvé. Oui. Et comment on te présente désormais?
Avocate et journaliste indépendante.
Ah, OK.
Ouais.
Tu travailles sur quoi ces temps-ci?
Écoute, là, de ce temps...
Comme avocate, est-ce que tu pratiques?
Ben, tranquillement, ça se met en branle. Mais d'abord et avant tout, j'écris des chroniques chez la Presse Plus,
ah oui.
Le samedi, à l'occasion. Je viens d'en écrire trois. Ensuite, j'ai des conférences parce que le voyage que j'ai fait à l'automne, finalement, ça a fait boule de neige.
Mais oui.
Les gens veulent en entendre parler. Alors, ça me fait plaisir de communiquer puis de parler de ce coin-là du monde qui m'intéresse particulièrement, l'ex-URSS, l'Ukraine en particulier, la guerre là-bas. Donc, c'est un retour en arrière d'une certaine façon. Mmh. C'est comme... un retour chez les Soviétiques, plus. Puis
c'est « Back in the USSR », comme back... il était écrit dans le National Post.
Oui, parce que j'ai fait une série aussi. J'ai fait une série dans la presse, mais j'ai aussi fait une série dans le National Post.
T'ennuies-tu de l'Assemblée nationale?
J'ai même pas le temps d'y penser. Mais
non?
Je m'ennuie de certaines personnes, parce que j'avais des bons rapports avec plusieurs députés, puis aussi le personnel de l'Assemblée nationale et des députés de tous les partis.
Mm-hmm.
Alors, j'ai des bons souvenirs de ça, mais je suis vraiment ailleurs.
Vie législative, le travail législatif, le travail en comté...
Le travail législatif, j'ai toujours trouvé ça passionnant, puis j'aurais aimé en faire plus.
Ouais.
L'étude des projets de loi, j'aurais voulu amener beaucoup plus. Mais bon, ça s'est pas passé nécessairement comme je voulais. Mais j'ai trouvé ça fascinant, tout ça. Le travail dans le comté, j'ai découvert Bourassa-Sauvé, et c'est Montréal-Nord, et puis toutes les problématiques de lutte contre la pauvreté, ça m'a vraiment fascinée. Puis je m'intéresse toujours à ça, puis je veux continuer à œuvrer là-dedans.
Pratique du droit va avoir un lien avec...
Oui, c'est en immigration.
Avec ces problématiques-là, oui.
Oui, c'est parce que ça m'a touché beaucoup. Et puis, j'ai écrit un texte dans la presse, justement, samedi dernier, sur la nécessité de régulariser le statut de demandeur d'asile ou de demandeur d'asile débouté. Là, les gens qui n'ont pas des statuts permanents, mais qui sont ici, qui parlent français, qui ont des enfants, qui ont des emplois. Donc ça me tient toujours à cœur. Puis...
ça serait combien de naturalisation, de régularisation de statut?
Le chiffre est difficile à obtenir.
Oui.
Ça serait peut-être quelques milliers. C'est pas
ah
tant
oui.
que ça.
Okay.
C'est pas tant que ça. Mais ça aiderait ces gens-là à sortir de la pauvreté parce que ces gens-là travaillent. Mais si t'es pas citoyen ou résident permanent en bonne et due forme, t'as pas droit aux garderies.
Mm-hmm.
T'as pas le droit à l'aide d'emploi Québec. T'as pas le droit de prendre des cours de français. Et ça, moi, ça me dérange beaucoup parce que la majorité des gens...
Ça, c'est si tu es en attente du statut de réfugié.
Oui.
Okay.
Et il faut que tu saches, Antoine, que la majorité des gens qui ont fait une demande d'asile vont rester. Parce qu'ils vont faire une demande d'asile. Si ça ne marche pas, ils vont faire une demande humanitaire. Et parfois, quand tu es haïtien, par exemple, même si tu as épuisé tous tes recours, ben, tu ne vas pas être renvoyé en Haïti parce qu'il y a une interdiction de renvoi.
Mmh.
Donc, ces gens-là sont chez nous.
Ce n'est pas un pays sûr.
Ce n'est pas un pays sûr, puis c'est dangereux en Haïti.
Ben oui.
Donc,
y retournerais-tu en Haïti, petite parenthèse?
Oui.
Tu es allé souvent? Y retournerais-tu là, actuellement?
Je retournerais, mais...
même dans les conditions actuelles?
Ben... peut-être, ça dépend. Je n'irai pas là n'importe comment.
Non,
là,
c'est ça.
Je préparerai mon affaire. Puis, mais oui, en fait, Le journalisme, j'ai encore la piqûre.
Ben oui.
Et tu me disais tout à l'heure, l'Assemblée nationale, okay, j'ai appris énormément de mon expérience, mais j'ai retrouvé mon indépendance puis ma liberté, puis pour moi, c'est super important.
Mais dans Montréal-Nord, t'as vécu des choses, t'as connu finalement les réfugiés peut-être plus au quotidien, les demandeurs d'asile, les immigrants. Est-ce que ça a changé ta façon de voir ces gens-là par rapport à l'époque où, parce que c'est une autre de tes carrières, où t'étais commissaire au statut de réfugié?
Oui, ça a changé. Oui? Ça a changé ma façon de voir. Quand j'étais commissaire... Ben, on n'avait pas le droit de toucher à la vie de ce monde-là. Alors, ces gens-là nous racontaient l'histoire. En fait, ils disaient pourquoi ils étaient persécutés et nous, on tranchait. Mais j'avais le seul rapport, il était très distant parce que moi, j'étais comme un juge. Et puis de l'autre côté, il y a la personne qui raconte son histoire. Mais derrière
quand
ça, je sentais...
Quand tu dis que je ne pouvais pas écouter, c'est quelle partie du récit que tu ne pouvais pas écouter?
Ben, en fait... On connaît ce que les gens nous racontent, évidemment, ce qu'ils ont vécu dans leur pays, mais on ne sait pas comment ils vivent chez nous.
Ah oui, OK.
On
ne sait
pas ce qu'ils font, parce que ce n'est pas pertinent une demande d'asile. Mm-hmm. Ça, les gens, ils doivent le savoir. Ce n'est pas pertinent une demande d'asile si la personne, elle travaille ou elle ne travaille pas. Ce n'est pas ça que le commissaire va évaluer. Il va évaluer si la personne est persécutée dans son pays.
Est-ce que, rétrospectivement, tu regrettes certaines de tes décisions?
Écoute, j'ai non.
Excuse-moi de te mettre dans une situation comme celle-là.
Non, mais j'ai fait ce que j'ai eu à faire. Mais après ça, par contre, ils peuvent toujours demander une demande pour pour rester pour des motifs humanitaires. Et c'est là que ça s'est examiné.
OK.
Et donc, en tout cas, c'est une longue, longue histoire, là, mais invite-moi encore, puis je vais t'en parler en détail.
Tu reviendras.
Ben, oui.
T'ennuies-tu du caucus libéral?
moyen, disons. Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire, ce moyen?
Ben, je pense que, comme je te disais tout à l'heure, mon indépendance, pour moi, est importante. Et par exemple, la semaine dernière, j'ai écrit un texte sur les demandeurs d'asile sur Roxham Road et j'ai eu beaucoup d'interactions avec les citoyens. Et je réalise que même si je ne suis pas partie du PLQ ou d'un autre parti, j'ai quand même une voix puis elle peut porter. Et j'aime ça.
Mm-hmm. Te sens-tu identifié à jamais au rouge?
Non.
Non?
Non. Non.
Est-ce qu'on te renvoie à cette étiquette-là?
Non.
OK.
Non, pas du tout. Et puis pour moi, le voyage que j'ai fait à l'automne, là, mm-hmm. tout de suite après la fin de mon mandat, c'était un peu justement pour tourner la page puis pour reprendre mon identité de citoyenne.
On dit souvent...
Indépendance.
Quand un ex-politicien fait ça, qu'il se désintoxe de la politique, te considères-tu désintoxiqué? Et est-ce que les deux voyages ont réussi, dans le fond?
Je pense que quand on a le virus, on peut pas. C'est difficile de se débarrasser du virus. Hein. Il reste toujours un peu en toi. Puis,
de la politique,
puis,
OK.
Oui, puis j'aime vous suivre. Puis c'est comme un téléroman, hein. Même si tu as manqué des épisodes. Ben, tu peux rapidement te rattraper. Et avoir été là-dedans pendant 4 ans, ben, ça me permet justement de suivre ça, même si j'en ai manqué des bouts. Là.
Je parle de deux voyages parce qu'en mai, tu es parti avec un organisme indépendant qui enquêtait sur les crimes de guerre en Ukraine. Mm. Mais tu es retourné en novembre, décembre, tu as passé 2 mois.
Oui.
Parle-moi de ces deux voyages-là rapidement, parce que tu es venu à ce micro nous en parler, mais ce soir, tu fais une conférence là-dessus où tu vas contraster aussi, non seulement ces deux voyages-là, mais aussi ce que tu as vu en 1990, parce que, évidemment, tu as été journaliste sur le terrain à l'époque.
Bien, c'est ça. Je suis à Québec ce soir, oui, au Cercle de la Garnison, je vais faire cette conférence-là. Oui, bien, un premier voyage... En fait, tout a commencé, là, à l'Assemblée nationale national. On m'a demandé à un moment donné à pied levé de faire un discours sur l'Ukraine, puis l'invasion n'était pas encore commencée. Et pour moi, ça a été vraiment un moment eureka. Là, je veux me réimpliquer là-dedans parce que j'avais habité dans ce coin-là du monde pendant 7 ans dans les années 90.
Oui.
Et là, de fil en aiguille, il y a un groupe qui m'a invité à participer à une enquête sur les crimes de guerre, et puis je suis allée. Et j'étais pas retournée, j'avais pas mis les pieds en Ukraine depuis 93.
Ah oui.
Donc, pour moi, c'était assez saisissant. Et j'ai fait ça. Et là, vraiment, on a travaillé sur le terrain. Puis c'était super fascinant. T'es choqué nécessairement quand tu vas sur le terrain puis tu vois ce qui est arrivé, des exécutions sommaires, des femmes qui te racontent comment elles ont perdu leur mari, des gens qui se sont fait violer. Tu peux pas rester indifférent devant tout ça. Et je me suis remis à écrire et j'ai gardé contact avec les gens de la presse, puis Stéphanie Grandmont qui est responsable des éditoriaux puis de la page opinion. Et à l'automne, j'ai dit, Stéphanie, j'ai le goût de faire un gros road trip jusqu'en ex-URSS. Puis elle dit, mais pourquoi tu fais pas l'Europe sur un pied de guerre? On aimerait ça nous savoir c'est quoi l'impact de la guerre en Ukraine sur l'Europe. Et c'est ce que j'ai fait. Et je savais pas du tout à quoi m'attendre. C'était après un mois tumultueux là où j'avais été, on m'avait demandé de parler sur le départ de Dominique Anglade et tout ça. Puis je voulais vraiment faire tourner la page là-dessus. Et ça a été un voyage pour moi plein de surprises.
Ressourçant?
Ouais, ressourçant. Puis avec les yeux de politicien, après 4 ans en politique, même si on est ailleurs, là. Le jeu politique est partout pareil, d'une certaine façon. Donc, comme journaliste, peut-être que je voyais tout ça avec un autre regard.
Tu vas y retourner?
Ah oui, certainement.
Oui.
Peut-être en Géorgie, même.
Oui. Malgré les événements, là, il y a un soulèvement contre le gouvernement qui s'est déclaré pro-Poutine.
Oui. Ben, je suis invitée à une conférence de la présidente géorgienne pour juillet. Mais là, ces événements-là se bousculent et on a un gouvernement... En fait, c'est fou parce que j'ai couvert l'indépendance de la Géorgie et je sais comment ce peuple-là est très indépendant, très fier. Et quand j'étais là au mois de novembre, les gens sont très pro-Ukraine parce qu'ils ont vécu eux-mêmes une invasion en 2008 et ils veulent pas de la Russie chez eux. Mais le gouvernement fait tellement d'argent avec l'invasion, parce que les produits qui sont sanctionnés passent par la Géorgie et le gouvernement se ferme les yeux. Il y a ça. Et finalement, le gouvernement s'est rangé pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons politiques, d'une façon vraiment insidieuse du côté de la Russie. Et là, ils viennent d'adopter une loi sur les agents étrangers qui est en fait une loi plagiat. En fait, c'est une copie conforme de la même loi en Russie qui a été adoptée en 2012. Et les gens, ils l'ont pas pris cette semaine. Et ils sont sortis dans la rue et j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Et la présidente, parce que je te parlais de la présidente s'est rangée avec les manifestants. Elle a dit, ça n'a pas d'allure. Non, et la Géorgie doit rester libre. Donc, moi, c'est un pays qui, un jour, peut-être qu'on pourra s'en parler, mais parce que les gens, ils connaissent pas vraiment la Géorgie, c'est
non.
Ça. On s'en parlera parce que c'est un pays, c'est fabuleux comme pays.
Ben, je vais aller t'entendre ce soir au Cercle de la Garnison pour ta conférence, puis on en reparlera sûrement, Paul.
Oui, merci.
Merci, Paul Robitaille, donc ma petite cousine et accessoirement journaliste et avocate. Ah oui, et ancienne députée libérale de Bourassa-Sauvé.
Antoine Robitaille. Il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot. Mais il aime mieux animer son émission.
On se déplace sur l'autre colline maintenant, celle d'Ottawa, pour parler de langue française et plus précisément du projet de loi C-13 visant à réformer la loi sur les langues officielles, la loi fédérale. Et c'est avec Mario Beaulieu qu'on va en parler. Bonjour.
Bonjour, M. Robitaille. Ça va bien?
Ça va. Mario Beaulieu, vous êtes député bloquiste de la Pointe de Lille. Dites-moi d'abord, en commençant, le Marc Garneau qui démissionne, avez-vous envie de lui rendre hommage?
Ben, malgré qu'on a des opinions contraires sur bien des sujets, quand un député quitte comme ça, ben, je tiens à souligner son engagement comme député en politique, ce qui n'est pas toujours facile. Alors,
oui.
D'ailleurs, je pense qu'il est en train de faire son allocution en ce moment.
Pensez-vous que son départ a un lien avec le fait qu'il ait pris position en partie contre son propre parti, là, sur les lois, sur la loi sur les langues officielles, sur ces 13?
Je ne sais pas, c'est difficile à dire, mais par contre, parce qu'il y a d'autres députés, M. Asfader, qui sont restés.
Ouais.
Mais pour lui-même, ça, je pense qu'il était visiblement très mécontent là, de certains amendements qu'on a réussi à faire passer. Puis, je ne sais pas si c'est relié à son départ, là, mais
okay.
On va lui laisser s'exprimer lui-même
oui.
Directement.
Et justement, comment ça se passe au Comité des langues officielles? On en est rendu où dans l'étude de C13? De l'extérieur, je vous le dis, là, même pour un passionné de la question comme moi, c'est un peu mêlant.
Effectivement, c'est très mêlant, surtout la dernière réunion.
Oui.
Avec les problèmes techniques. Bon,
ben oui, il paraît qu'il y avait des problèmes pour les interprètes qui entendaient mal, qu'il y avait des coups de micro dans les oreilles ou...
Oui, c'est que Mme Ashton était en Zoom, puis l'interprète disait qu'elle n'entendait pas bien. Puis bon, il y a eu plusieurs blessures auditives, tout ça. Donc maintenant, on a la consigne de ne pas passer outre ce que les interprètes nous disent. Puis finalement, le bureau de la traduction a envoyé une autre interprète qui, elle, semblait entendre assez bien.
OK.
Et, parfois... Donc, ça a retardé le débat.
Oui.
Et, finalement, nous, on demandait qu'il y ait une prolongation du débat pour qu'on puisse vraiment... Notre travail en tant que député, c'est de passer, étudier les amendements, le projet de loi, puis d'en débattre. Alors, on veut tout simplement faire notre travail et puis faire, c'est-à-dire avoir le temps de passer tous les amendements.
Mais dites-moi, il y a
oui.
Au cœur de la loi sur les langues officielles, de façon classique là, et traditionnelle, il y a la règle stricte de la symétrie. On met les minorités anglophones et les minorités francophones parfaitement sur le même pied. Et moi, ce que j'ai compris avec les... Ça a commencé sous Mélanie Joly, puis ensuite, même dans la version de Mme Petitpas-Taylor, il y avait comme une brèche dans cette symétrie-là. C'était moins symétrique qu'avant. Où est-ce qu'on en est là-dessus? Est-ce que c'est encore aussi symétrique?
Il y a encore des éléments de symétrie, mais ce qui est arrivé, bon, le gouvernement du Québec a fait des demandes. Mme Lebel, il y a au moins un an et demi... peut-être 2 ans.
Sonia Lebel, oui.
Sonia Lebel, la ministre des Relations intergouvernementales là, pour l'actuel gouvernement. Et sa condition, sa prémisse pour négocier, c'était que le gouvernement fédéral reconnaisse que des deux langues officielles, il y en a une seule qui est minoritaire, le français.
Voilà.
Une seule qui est menacée, le français. Et le gouvernement, par sa déclaration au discours du trône, a admis que le français est minoritaire au Canada et en Amérique du Nord.
Bon.
Il n'a pas dit qu'il y avait une seule langue officielle qui était minoritaire.
Ah.
Et il a maintenu la structure symétrique qui cause problème là en disant que il continuait à protéger la minorité anglophone au Québec. Pour eux autres, c'était prioritaire. Mais il ajoutait cette déclaration-là, puis il disait, on reconnaît qu'on a une responsabilité à protéger le français au Québec. Fait que c'est un peu, ils disent une chose et son contraire.
Ah oui.
Et comme Éric Poirier un peu l'a dit dans son livre, là, Le piège des langues officielles.
Oui.
C'est... La structure symétrique reste là, avec quelques éléments qui donnent à penser que ça pourrait être asymétrique.
Mais
donc,
précisément, là, sur l'asymétrie, il oui. y a cette idée est poussée par le gouvernement caquiste, mais c'est aussi dans la loi 96 qu'il faudrait appliquer la loi 101 aux entreprises à charte fédérale. Et ça, Où est-ce que ça en est? Avez-vous réussi ou c'est pas encore déterminé?
Ça, on n'est pas rendu là. C'est pour ça qu'on veut prolonger le débat. Ça va jouer à l'article 54. Dans le fond, C-32 et C-13, c'est un peu la même chose de ce point de vue-là. C-32 proposait de donner le choix aux entreprises de s'assujettir volontairement ou non.
C-32, juste pour nos auditeurs, là, C-32, c'est la version jolie de la loi, alors que C-13, c'est la version petit pas Taylor.
Exact.
Okay.
Et dans cette optique-là, les deux disent à peu près la même chose. C-13 va un peu plus loin parce qu'elle édicte une nouvelle loi sur les entreprises à charte fédérale au Québec et dans certaines régions prédominantes francophones qui sont pas définies, qui vont rester à définir ça dans la loi. Alors, puis bon, il y a souvent les gens disent, au début, Mme Joly présentait, ou je sais pas si elle l'a fait directement, mais ça a beaucoup été présenté comme un calque de la loi 96 ou de la loi 101. Mais c'est pas ça du tout, parce que la loi 101, la Charte de la langue française des affaires du français, la langue commune des milieux de travail, à ce que le français soit vraiment dans tous les secteurs de l'entreprise, alors que la loi C-13, la loi sur les langues officielles, la nouveauté, c'est que il y aurait un droit de travailler en français, d'être servi en français. Mais on précise qu'il y a aussi le droit que ça n'empêche pas d'être servi en anglais ou de travailler en anglais. Et dans la loi 101, il y a des articles qui protègent les travailleurs contre des représailles s'ils ne connaissent pas une autre langue que le français. Il y a la même chose dans C-13, mais il y a aussi dans C-13 la même protection pour les travailleurs qui ne connaissent pas le français, là, pour les travailleurs anglophones. Donc,
oui.
Ça vient un peu officialiser le droit de travailler en anglais au Québec.
Il y avait un autre enjeu, Mario Beaulieu, c'était la mention dans le préambule de C-13, donc de la nouvelle loi sur les langues officielles, de la Charte de la langue française du Québec. Est-ce que ça, vous avez réussi à le maintenir ou ça a été enlevé? Parce que j'ai comme lu les deux choses.
la prédominance... on n'a pas réussi, ça même, on l'a amené à un endroit et le président a déclaré que c'était irrecevable. On a fait appel de sa décision et j'ai été le seul au Bloc québécois. On a un député sur 12 au Comité des langues officielles. J'ai été le seul qui a voté contre la décision.
C'était quoi, ça, la prédominance? Ça disait que la loi 101 avait prédominance?
Donnant qu'il y ait un conflit entre la loi sur les langues officielles et la Charte de la langue française sur le territoire du Québec, c'est la Charte de la langue française qui devrait l'emporter.
Ça, ça n'a pas fonctionné?
Non, ça n'a pas fonctionné.
Okay.
Ce qui a fonctionné, bon, M. Housefather, puis les anti-loi 101, tout ça.
Ça, c'est le député libéral, là, Housefather, oui.
C'est ça, qui est un ancien président d'Alliance Québec.
Ben oui.
Et vous savez, la loi sur les langues officielles, depuis 52 ans, ne fait que soutenir l'anglais au Québec. Et elle finance tous les groupes de pression anglophones comme Alliance Québec, le nouveau groupe Québec Community Network Group. Et ces groupes-là, ce qu'on a entendu au comité, la désinformation un peu sur le qui laisse entendre que les anglophones auraient pu accès à des services de santé dans leur langue.
Oui, oui, ça c'est Mme Lambrou-Poulos qui est venue dire ça.
Mme Lambrou-Poulos a dit ça. Je ne sais pas si les autres l'ont dit, mais le QCGN a dit ça fréquemment et dans ses rassemblements, tout ça. Et le Québec Community Network Group, là, qui est un peu le nouveau Alliance Québec, avait lancé un appel aux députés fédéraux pour enlever toute référence à la Charte de la langue française dans la loi sur les langues officielles. Alors ça, ça n'a pas fonctionné, M. Housefather. Il avait amené un amendement pour enlever cette référence-là du préambule de la loi sur les langues officielles du projet de loi C-13. Et on a réussi. Bon, ça n'a pas passé. Ça veut dire que tous les partis d'opposition ont voté contre. Et on a réussi à ramener des amendements proposés par le gouvernement du Québec. C'est assez rare qu'on voit ça.
Oui, vous avez réussi, mais lesquels?
C'est ça. Il y en a un, bon, qui dit on les a ramenés, on n'a pas réussi dans le préambule, mais on les a ramenés dans la section objet et interprétation, là, dans la section droit linguistique. Et ce qu'on a réussi à amener, bon, par exemple, c'est malheureusement, normalement, le gouvernement du Québec enlevait les références à la minorité anglophone parce que les anglophones sont une minorité numériquement, mais ils font partie de la majorité canadienne, la majorité anglophone. Donc, ils ont des besoins très différents des communautés francophones acadiennes. On a réussi à faire passer, par exemple, bon, d'appuyer le développement des minorités francophones et anglophones en vue de les protéger, mais en ajoutant, tout en tenant compte du fait qu'elles ont des besoins différents.
Ça, tu l'as. OK. Ça a été accepté.
Oui, ça a passé. En tenant compte que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l'usage prédominant de l'anglais et que la Charte de la langue française du Québec vise à protéger, à renforcer et promouvoir cette langue.
Ça, donc, si je résume, et, là...
Un autre amendement, juste pour vous dire, parce que il est assez important, je pense, c'est que dans un des objets de la loi sur les langues officielles, ça va dire maintenant de garantir l'existence d'un foyer francophone majoritaire dans un Québec où l'avenir du français est assuré.
Ah bon, OK. Donc, alors, ça, c'est tout. Êtes-vous satisfait de ces gains-là? Puis, qu'est-ce qui vous reste à faire à l'horizon, là?
Ben, on est content d'avoir réussi à faire adopter ça. Par contre, la même vision symétrique de la protection des minorités francophones au Québec, de la minorité anglophone au Québec, est encore là. Et le projet de loi C-13 est structuré de telle façon qu'il peut véhiculer ça. Donc, il y a quelques éléments d'asymétrie qui sont assez ambigus. Nous, on essaie de le faire le plus clairement possible. Et si on avait réussi à faire adopter qu'en cas de conflit entre la loi sur les langues officielles et la Charte de la langue française sur le territoire du Québec, c'est la Charte de la langue française qui l'emporte. À ce moment-là, ça aurait été un gain vraiment important.
Ben merci beaucoup, Mario Beaulieu. Ça fait le tour. On en reparlera sûrement. Puis
merci à vous. Je pense que c'est très important. Le français est en déclin.
Oui.
On ne peut pas continuer à reculer. Puis la loi sur les langues officielles elle devait minimalement permettre qu'on applique la loi 101 aux entreprises de compétences fédérales. C'est un très large consensus au Québec. Et ça, tous les partis d'opposition se sont dit en faveur de ça. Alors, c'est pour ça que c'est important de pouvoir en débattre jusqu'à l'article 54. Et je pense qu'on va réussir probablement à le faire.
Merci.
Donc, au revoir.
Je rappelle que Mario Beaulieu est député de la Pointe-de-l'Île du Bloc québécois. Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Vous pouvez aussi faire du bouche à oreille. Et je vous dis à demain.